Nous en arrivons donc à la communication de ce jour qui a pour titre « L'avenir de l'économie mondiale dans un contexte géopolitique transformé ». Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, je ne vais pas vous présenter l'orateur de ce jour puisqu'il est l'un des nôtres, l'un de nos deux prix Nobel d'économie qu'il a reçu en 2014, Jean Tirole. En revanche, je crois pleinement justifié de vous dire quelques mots de celle qu'il a vu naître et qu'il ne cesse de faire grandir, l'école d'économie de Toulouse, la Toulouse School of Economics, ou TSE, qui est un succès vraiment impressionnant. Créée au début des années 1980, lorsque l'éminent économiste Jean-Jacques Lafont choisit de quitter Harvard pour Toulouse, sa ville natale, afin d'y construire un nouveau département d'économie, rassemblant des pairs de premier plan, la Toulouse School of Economics est devenue l'une des premières universités françaises, la 15e université mondiale dans le classement de Shanghai et le 8e centre de recherche en économie du monde. Elle regroupe aujourd'hui 150 enseignants-chercheurs permanents de 50 nationalités différentes et 2500 étudiants de 80 nationalités. Elle contribue au moins autant qu'Airbus au rayonnement international de Toulouse. J'ajoute qu'au-delà de Jean Tirole, notre académie a un deuxième lien avec la Toulouse School of Economics, puisque, après Michel Pébreau, c'est Dominique Sénéquier qui préside la fondation TSE. Cher Jean Tirole, chers confrères, le moment est venu de vous écouter. Vous avez la parole pour traiter un sujet vraiment essentiel. Merci.
Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette invitation et aussi ces propos très généreux. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, mes chers consoeurs, mesdames, messieurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je structurerai mon propos en trois parties. Je rappellerai d'abord le contexte international marqué par un retour d'une géopolitique transactionnelle. Je me pencherai ensuite sur la position spécifique de l'Europe dans cet environnement profondément transformé. Et enfin, je tenterai d'esquisser les choix stratégiques qui s'offrent à l'Europe et les conditions de sa capacité à peser dans l'économie mondiale de demain. Alors, je vais commencer par le contexte international que vous connaissez tous et toutes. Vous savez que le commerce, la finance et la géopolitique sont étroitement imbriqués. De tout temps, les grandes puissances ont utilisé les liens créés par des échanges internationaux, commerciaux et financiers pour atteindre les objectifs géostratégiques et inversement. L'idée selon laquelle l'économie pourrait être durablement séparée de la politique relève davantage de la fiction que d'une loi générale. Pour être effective, les menaces géopolitiques doivent être à la fois percutantes et crédibles. Percutantes, car leur impact n'est pas garanti. Les sanctions n'ont pas empêché la Russie et le Venezuela d'écouler leur pétrole, certes à prix réduit. Leur extraterritorialité s'est heurtée aux intérêts des grands acheteurs comme l'Inde et la Chine. Ces menaces doivent être aussi crédibles, car les conflits détruisent de la valeur des deux côtés. Un hégémon ne tire profit de sa menace que s'il est perçu comme prêt à en assumer le coût. Cette crédibilité repose sur l'alignement de l'opinion publique intérieure et sur la capacité à soutenir l'effort dans la durée, qu'il s'agisse de finances publiques, de capacités industrielles ou de reconstitution des stocks stratégiques. Après ces remarques liminaires, je voudrais présenter une perspective globale au prix d'une simplification excessive. 1989, chute du mur de Berlin, Francis Fukuyama soutient que l'évolution idéologique de l'humanité est achevée, permettant l'émergence d'un nouvel ordre international basé sur l'économie de marché et les institutions politiques libérales. Droit de l'homme, état de droit, élections. L'ère de l'ordre libéral arrivait enfin avec ses corollaires. Premier corollaire, l'accélération de la croissance, qui permettrait de financer l'éducation, la santé et d'autres biens. Deuxièmement, l'essor du multilatéralisme, qui autoriserait la fourniture de biens publics mondiaux, tels que la protection de l'environnement ou le libre-échange, et aussi une régulation intelligente des défaillances de marché, c'est-à-dire une régulation fondée sur l'expertise plutôt que sur la connivence et les rapports de force. Troisième point, l'ordre libéral enfin permettrait au sein de chaque pays et entre pays une redistribution équitable de ce gâteau additionnel, ainsi que la généralisation du modèle démocratique. La promesse était belle, mais elle ne fut pas tenue. Pire, ses fondements mêmes sont remis en question. Sous Trump, les États-Unis, autrefois chantres de ce nouvel ordre international, mobilisent particulièrement l'économie à des fins idéologiques, pour combattre toutes sortes de choses, le wokisme, l'immigration, la régulation et beaucoup d'autres, et pour profiter de leur puissance en faisant pression sur d'autres pays. Ils attaquent chaque pan du multilatéralisme quand ce dernier ne promeut pas leurs intérêts de court terme. D'où la sortie des accords de Paris, de nombreuses institutions onusiennes, dont l'OMS et le HCR, et les attaques sur la Cour pénale internationale. Alors la question c'est, comment a-t-on pu en arriver là? Alors trois réponses, vous aurez peut-être d'autres également. Tout d'abord, j'ai parlé de promesses non tenues. L'accroissement spectaculaire de la taille du gâteau, et il a cru énormément bien sûr, ne fut pas suffisamment accompagné de son partage. Au contraire, il y eut croissance selon les pays, croissance des inégalités, de revenus de richesse, éducatives, géographiques et autres. Par exemple, si la mondialisation améliorera beaucoup le niveau de vie en moyenne, quand je dis en moyenne, c'est au niveau de chaque pays et entre pays, de tous les pays, une fraction conséquente des citoyens subit la stagnation des salaires, le déclassement social, la désindustrialisation régionale et le sentiment d'insécurité. Deuxième réponse, nous avons mal apprécié la fragilité des démocraties. De nombreux pays ont vu des gouvernements populistes légalement élus, j'insiste sur ce terme, consolider leur pouvoir en réduisant l'autonomie des tribunaux, en contrôlant les médias, en réécrivant l'histoire nationale et en s'autoproclamant « nous sommes le peuple », formule rapidement suivie de la désignation d'ennemis du peuple, les étrangers, les minorités nationales, les élites, etc., etc. Alors ne faisons pas preuve de naïveté. Les dirigeants politiques peuvent bénéficier de l'instrumentalisation des conflits. Les gains idéologiques, la polarisation de l'opinion ou la création artificielle d'un sentiment d'unité nationale contre un ennemi commun peuvent s'avérer politiquement rentables à court terme. Les entrepreneurs du conflit prospèrent sur des logiques de « nous contre eux », mobilisant religion, identité culturelle ou xénophobie pour arriver à leur fin. Ils exploitent les angoisses existentielles des populations réelles, la peur face à l'intelligence artificielle, les pandémies, le réchauffement climatique, le déclassement social, ou construites comme le grand remplacement. Ils s'appuient sur des chambres d'écho numériques pour délégitimer leurs adversaires, dont les experts. Troisième réponse, nous avons mal apprécié la fragilité du multilatéralisme. Pourtant, Albert Hirschman, qui espérait que les règles et les institutions finiraient par remplacer la politique du plus fort, avait, dès 1945, montré qu'une concentration excessive des échanges créait des dépendances dangereuses, qu'il proposait d'ailleurs de mesurer à l'aide d'un indice aujourd'hui connu sous le nom d'indice d'Erfindahl-Hirschman. Hirschman suggérait d'écarter les dangers liés à ces déséquilibres de pouvoir, non seulement par la diversification des échanges, mais aussi par la délégation de la souveraineté économique à des institutions multilatérales. Il n'était cependant pas naïf, et il réalisait bien que les pays dominants militairement et économiquement n'avaient pas forcément intérêt à respecter les règles du jeu imposées par le multilatéralisme. Son point de vue était annonciateur de celui de Marc Carney dans son désormais célèbre discours de Davos, dont je cite ici un passage. Nous savions que l'histoire de l'ordre international fondé sur des règles était en partie fausse, que les plus puissants y dérogeaient lorsque ça leur convenait, que les règles entourant les échanges commerciaux étaient appliquées de manière asymétrique et que le droit international était appliqué avec plus ou moins de rigueur selon l'identité de l'accusé ou de la victime. Néanmoins, cette fiction était utile et l'hégémonie américaine en particulier contribuer à assurer des bienfaits publics, des voies maritimes ouvertes, un système financier stable, une sécurité collective et un soutien aux mécanismes de résolution des différends. Alors, aussi fragile soit-il, le multilatéralisme n'est pas obsolète. Il est même totalement indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique, encadrer l'intelligence artificielle de sorte que nous ayons les bénéfices de l'intelligence artificielle, préserver la stabilité financière, percevoir l'impôt, réduire les inégalités extrêmes. Avant de continuer, je voudrais faire un petit détour au sujet de notre rapport à l'expertise. Je crois qu'on ne peut pas traiter des attitudes vis-à-vis de la démocratie ou du multilatéralisme sans mentionner notre rapport à celle-ci. De fait, la réalité ou la perception des promesses non tenues a conduit une partie de l'opinion publique à tenir les experts pour responsables de la crise financière de 2008, des migrations, des transformations culturelles ou en Europe de la croissance atone. La défiance vis-à-vis de l'expertise n'est certes pas un phénomène nouveau. Dès 1793, et sans doute bien avant, mais en 1793, Edmund Burke, penseur emblématique du conservatisme moderne, dénonçait la montée, je cite, « des sophistes, des économistes et des calculateurs ». La résistance des croyances face à l'expertise n'est pas non plus un phénomène étonnant. Je rappelle que Marcel Proust rappelait en 1913 que les faits statistiques, qui sont l'ADN des experts, peine à ébranler les croyances établies. C'est quelque chose qui a été évidemment étudié énormément par les psychologues et les économistes. Un débat démocratique de qualité suppose pourtant respect, rigueur et expertise. Sinon, tout argument est permis. Il n'y a que des vérités alternatives. Mais à qui incombe la responsabilité de cet état de fait ? Que finalement les experts sont complètement... ont perdu leur réputation. Alors peut-être les experts eux-mêmes qui emportent une partie de la responsabilité, une certaine condescendance en se posant en détenteur de la morale, mélange entre faits et jugement de valeur, déni de l'incertitude, faible mécanisme de redevabilité. Tout ça, c'est du petit lait pour les populistes qui s'empressent d'avancer une double défiance, la négation de la compétence des experts, et leur désignation comme ennemis du peuple, supposément déconnectés des réalités. Au-delà des experts eux-mêmes, bien sûr, il y a les responsables politiques et les médias qui jouent un rôle central dans la remise en cause de l'expertise. Mais il ne faut pas oublier qu'ils répondent à une demande sociétale. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire « oui, les politiques ne devraient pas ou les médias ne devraient pas parler de tel ou tel thème démagogique », mais il faut comprendre que ça répond aussi à une demande sociétale. Et donc au marché des croyances. Et sur ce marché des croyances, nous, citoyens, sommes tous déresponsabilisés. Nos croyances individuelles n'auront absolument aucun impact sur la prochaine élection. Nous sommes beaucoup trop petits pour influer sur l'élection elle-même. Donc chacun d'entre nous adopte des croyances de confort, ce qu'on appelle des croyances motivées. Nous croyons que ce qui nous rassure ou ce qui sert nos intérêts symboliques. Cette logique explique le succès de nombreux dénis collectifs, par exemple en matière climatique, où l'illusion d'une transition énergétique sans coût est politiquement séduisante, mais climatiquement dangereuse. L'économiste rappelle souvent des vérités inconfortables, la nécessité des incitations, les risques d'un endettement excessif, les inégalités profondes de nos systèmes éducatifs, le besoin de responsabiliser les acteurs économiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En révélant nos jugements de valeur, l'économiste est le plus souvent un messager de mauvaises nouvelles, allant à l'encontre des croyances que nous voudrions entretenir sur la nature humaine ou le niveau des efforts auxquels nous devrions consentir. Comme le disait si bien Proust, nos croyances résistent aisément aux faits. J'en viens à la deuxième partie de mon exposé qui va traiter des dangers auxquels l'Europe est confrontée. L'Europe, comme vous le savez, accuse un retard préoccupant dans les domaines technologiques et militaires. Elle investit insuffisamment dans les technologies de rupture, l'espace, l'intelligence artificielle, les biotechnologies. Et dans certains secteurs, le décrochage est presque irréversible. Malheureusement, près de la moitié de la recherche privée européenne reste concentrée dans le mid-tech, en particulier le secteur automobile, tandis que les investissements dans les secteurs d'avenir demeurent fragmentaires. Dans la tech, les plus grandes entreprises et les start-up les mieux valorisées sont quasi exclusivement américaines et chinoises. Les programmes européens, comme Horizon Europe, contribuent peu à combler notre retard. Avec un budget annuel d'environ 11 milliards d'euros, Horizon Europe ne représente que 10% du financement public de la recherche en Europe. Les décisions sont souvent prises par des responsables politiques et administratifs, certes après évaluation scientifique, et favorisent le saupoudrage, les collaborations artificielles et la logique du juste retour entre les États membres, toute pratique tout à fait critiquable. Par ailleurs, une part importante des fonds qui est censée préparer les innovations de demain ne servent plutôt à financer des PME. Il n'y a rien de mal avec ça, mais ce n'est pas de l'innovation de rupture. L'Europe n'est pas condamnée à la faillite, mais elle est condamnée à choisir. Elle peut persister dans le déni ou accepter de transformer son modèle en profondeur. Une politique industrielle européenne intelligente devrait reposer sur quelques principes simples. Redonner un réel pouvoir de décision aux scientifiques, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple, avec le DARPA, avec la NSF, NIH, toutes ces agences, où ce sont les scientifiques qui décident. En Europe, il y a le Conseil européen de la recherche qui est organisé comme ça, et c'est une réussite magnifique. Il faut concentrer les budgets sur des priorités claires, à la manière de l'agence BARDA lors de la crise du Covid, ne finançant que 6 équipes sur les 3 technologies, 2 par technologie, accorder une large autonomie aux responsables de programme et privilégier l'innovation de rupture plutôt que le soutien généralisé aux PME. Alors ça, c'est pour la tech, mais malheureusement, dans le domaine de la santé, le contraste est tout aussi frappant. La Chine et les États-Unis disposent d'avantages considérables en matière de données, d'intelligence artificielle, de génétique et de financement massif dans les biotechnologies. Sans surprise, les États-Unis et, depuis 5 ans, c'est tout à fait nouveau, la Chine trustent les essais cliniques. Seul le Royaume-Uni suit, mais de très loin. Notre santé sera dans quelques années totalement dépendante de ces 2 pays. Et pourtant, l'Europe a encore un excellent niveau de recherche en sciences de la vie. Elle reste devant la Chine pour les publications dans les revues scientifiques de premier plan. Mais par contre, elle ne transforme pas cette excellence en succès financier et industriel. Non seulement l'Europe est-elle distancée, mais la situation est encore plus grave pour la France, qui a fortement régressé au sein de l'Europe, à la fois en matière de production pharmaceutique et d'essais cliniques. Au sujet des essais cliniques, l'Europe souffre aussi d'une surrégulation des essais cliniques et d'un cadre inadapté à l'innovation rapide. Et je pense qu'une des choses qu'on peut faire, on peut aussi innover en matière de régulation. C'est vraiment important à comprendre. Il faut inventer la régulation de demain pour la santé, capable d'évaluer non seulement les produits finis, ça c'est terminé, on va évaluer des processus de découverte et l'actualisation continue du service médical. On l'a fait pour les jumeaux numériques, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire plus généralement pour la santé. Donc nous avons décroché en sciences de la vie de façon grave, c'est-à-dire que les médicaments innovants de demain seront chinois et américains. Un autre danger nous guette en santé, cette fois en matière d'accès aux médicaments, les médicaments existants. Aujourd'hui, vous savez que la France, les Français, paient leurs médicaments 1/4 du prix américain. Ce prix bas explique pourquoi seulement 6 médicaments innovants sur 10 sont disponibles en France. Les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas vendre à prix très bas. Et cet état de fait reflète un choix sociétal légitime entre qualité et accès universel, aux soins dans un cadre budgétaire, on peut le dire, très contraint. Cependant, les États-Unis sont en passe d'adopter une clause, la clause de la nation la plus favorisée, impliquant que les prix américains ne pourront pas excéder les prix des mêmes médicaments dans un panier de pays, dont la France, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faudra que le prix américain ne soit pas au-dessus de la moyenne des prix dans le panier, dans les autres pays. Cette clause implique, si elle est appliquée, que les laboratoires pharmaceutiques seront à l'avenir peu enclins d'octroyer des rabais à la France, car ces rabais seront alors automatiquement répercutés dans leur marché principal, qui est les États-Unis. Donc, c'est vrai qu'on paye un quart, et les gens s'en plaignent, un quart du prix américain, il vaudrait bien moins, mais la prédiction, c'est que si cette clause est appliquée, on va payer beaucoup plus ou on n'aura pas les médicaments. Troisième question sectorielle importante, la dérégulation financière américaine. Donc là, on passe au secteur financier. Elle soulève des inquiétudes tant pour la stabilité financière mondiale que pour l'intégrité des institutions, dans un contexte où intérêts politiques et intérêts personnels se confondent parfois. Alors, je vais commencer par trois exemples de dérégulation financière aux États-Unis. Premier exemple, la vice-présidente chargée de la supervision à la Fed, Michelle Bowman, veut réduire de 30% les effectifs de l'unité de supervision, celle qui surveille les banques, à la Fed. Elle veut diminuer les exigences de fonds propres des banques américaines et assouplir les tests de résistance et les fameux stress tests. De plus, l'Agence de protection financière des consommateurs est plus ou moins démantelée et les auteurs de crimes financiers sont graciés. Deuxième exemple, la régulation Dodd-Frank, qui avait suivi la crise de 2008, a été plus ou moins abandonnée. La recommandation de Dodd-Frank d'introduire des clawbacks, c'est-à-dire des clauses de récupération des bonus en cas de mauvaise performance ultérieure de la banque, n'a pas été appliquée et les traders, gestionnaires d'actifs et banquiers d'affaires peuvent continuer d'être rémunérés sur leur performance annuelle, ce qui évidemment encourage à l'extrême les transactions, le risque et le court-termisme. Troisième exemple, Trump vient de demander aux agences semi-gouvernementales, Fannie Mae et Freddie Mac, de tripler la taille de leur portefeuille de prêts titrisés. Alors c'est un peu technique pour ceux et celles qui ne connaissent pas, mais ça revient en gros à assurer les prêts immobiliers, même s'ils sont très risqués. C'est-à-dire que quand vous êtes une banque et vous octroyez un prêt immobilier, vous pouvez le faire réassurer en quelque sorte par les agences gouvernementales. Ces deux mêmes agences, je vous le rappelle, avaient coûté au Trésor américain des dizaines de milliards de dollars en 2008, en suivant exactement la même politique. Je crois que nous n'écoutons pas beaucoup les leçons de l'histoire. Alors ça, c'est la première composante. Il y a une deuxième composante qui est plus moderne, en quelque sorte. Toutes les autres composantes, on a déjà vu ce genre d'exemple dans le passé. Mais ce qui est nouveau, c'est plutôt les crypto-monnaies. Alors, j'avais beaucoup écrit sur ce sujet, je ne vais pas m'attarder sur le constat. Je dirais simplement que le développement rapide des crypto-monnaies pose un problème de blanchiment, de perte de seigneurage, c'est-à-dire les revenus de l'émission de monnaie traditionnellement sont perçus par la banque centrale et donc par l'État. Là, elles sont soit gâchées par le minage, soit elles vont dans des mains privées. Et elles posent enfin les problèmes de stabilité macroéconomique. Je voudrais me concentrer sur un problème plus particulier, mais qui est très à la mode, qui est le problème des stablecoins. Les stablecoins sont des crypto-monnaies adossées à des actifs sûrs. Bons du trésor, actifs bancaires. Ils présentent peu d'intérêt économique par rapport à une monnaie de banque centrale. Par contre, ils nous exposent à plusieurs risques. Premier risque, le risque d'une représentation erronée du bilan. Vous savez que sur ce marché des intermédiaires en stablecoins, il y a deux grandes compagnies, Tether et Circle. Tether avait mal représenté son bilan, elle avait dissimulé son bilan, elle s'était engagée à détenir à tout moment 100% de la valeur de son passif en réserve en monnaie fiduciaire et à se soumettre à des audits professionnels réguliers. En fait, ni l'un ni l'autre n'était véridique. Ce n'était pas du tout ce qui se passait dans son bilan et il n'y avait pas d'audit. L'autre grand intermédiaire, Circle, avait, lui, en 2023, 8% de ses fonds propres investis en dépôts non assurés dans Silicon Valley Bank. Comme vous le savez, Silicon Valley Bank a fait faillite, entre guillemets, en fait a été sauvé par l'État américain. Mais imaginez une banque, en quelque sorte, qui a 8% de ses fonds propres investis en dépôts non assurés. Alors finalement, ils n'ont pas perdu d'argent, puisqu'il y a eu un renflouement par le Trésor américain. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très tentant de prendre des risques. Si vous avez des bons du Trésor américain à l'actif de votre bilan, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Vous allez même peut-être en perdre. Si par contre vous prenez des dépôts bancaires non assurés, là vous allez gagner de l'argent tant que la banque ne se casse pas la figure. Si vous prenez des risques de taux d'intérêt, vous pouvez gagner de l'argent aussi. Mais si vous voulez gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Donc le stablecoin complètement sûr, je n'y crois pas parce qu'il y aura toujours une tentation d'échapper à ce. Alors certes, la loi américaine, comme vous savez, elle a été appelée le Genius Act en juillet dernier, très modestement, promet une surveillance rigoureuse. Mais comment croire cette loi ? Les régulateurs ont un conflit d'intérêts évident, car ils recherchent eux-mêmes un enrichissement personnel. Alors je pense ici à Musk, à J.D. Vance, à Witkoff et à la famille Trump. Je vous rappelle quand même que la famille Trump avait lancé le dollar Trump, promu par le président, et puis il y a le dollar Melania aussi, qui est la monnaie émise par son épouse. Elle est sortie récemment dans la presse le fait que il y a une fuite, comme quoi les Émirats Arabes Unis avaient racheté 49% de World Liberty, qui est une stablecoin possédée par la famille Trump. Donc, ce qu'on voit, c'est que la politique étrangère est dictée par l'intérêt personnel des dirigeants. Bon, ça existait déjà dans l'immobilier, etc., mais ça existe dans le financier également, par l'intermédiaire de ces crypto-monnaies. Et donc, croire à une régulation très stricte de ces crypto-monnaies quand la dérégulation permet de gagner de l'argent est assez illusoire. D'ailleurs, le président américain projette d'interdire à la Fed d'émettre de la monnaie électronique de banque centrale, ce que partout dans le monde on commence à faire, y compris d'ailleurs en Europe. Mais effectivement, cette monnaie électronique de banque centrale va concurrencer les stablecoins. Donc, certaines personnes ne veulent pas cette concurrence, évidemment. L'autre grand risque, c'est le risque de la désintermédiation. L'épargne quittant les banques traditionnelles vers des acteurs qui, premièrement, sont à expertise limitée en matière de prêts. Ils n'ont pas l'habitude de faire des prêts, hein, ce n'est pas de leur faute, mais ce n'est pas exactement une forme d'intermédiation souhaitable. Et de plus, ne sont soumis à aucune exigence en matière de liquidité, de capital et de paiement de primes d'assurance dépôt. Voilà, donc vous allez me dire, mais pour l'Europe, est-ce que c'est vraiment grave ? Pas directement, puisque évidemment c'est un problème intérieur américain, sauf que, on a bien vu en 2008 que même si la crise est partie des États-Unis, elle a touché vraiment très durement l'Europe. Et donc, la contagion d'une crise financière vue des États-Unis serait très grave pour nous aussi. L'autre risque, c'est celui d'un chantage américain pour la contrainte d'autoriser les banques européennes à accepter les stablecoins libellés en dollars, offrant ainsi aux États-Unis une source supplémentaire de financement de leur déficit. Comme le montrent leurs menaces de rétorsion en matière de régulation des plateformes numériques, les États-Unis aujourd'hui ne rechignent pas à intervenir dans les affaires internes des pays européens. Voilà, sur ce bilan, je vais essayer de voir un peu l'avenir, et j'espère de façon un peu moins sombre, et me poser la question de comment retrouver la capacité d'agir et une ambition pour l'Europe et pour la France. Alors, nous sommes face à un risque de dépendance, on est déjà dedans, hein, et de déclassement. Alors, la première étape est sans doute la plus difficile si on veut s'en sortir. Il faut sortir du confort trompeur des croyances motivées. Trop souvent, nous nous racontons une histoire rassurante. Nous déplorons l'état du monde, la montée des tensions, la brutalité de la géopolitique, tout en nous consolant avec des vérités partielles. L'Europe est plus égalitaire, elle est plus respectueuse de l'environnement, elle a un meilleur système de santé. Nous espérons en creux qu'un retournement extérieur viendra nous épargner l'effort du changement. Mais cette posture de consolation est une impasse, car si ces constats sont justes, ils sont politiquement stériles. Ils n'enrayent ni le déclassement technologique, ni la perte d'influence, ni la dépendance stratégique. Pire, ils deviennent une excuse à l'inaction. Dans le cas de la France, la question de la dette se rajoute aux préoccupations sur le retard en tech et biotech et le risque de contagion d'une crise financière américaine. L'inquiétude des détenteurs de dette française ne tient pas seulement au niveau de 115% du PIB de dette, à ses retraites non capitalisées, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Les nouvelles dépenses essentielles à venir, climat, éducation, santé, défense, travail, IA, au manque de perspectives de croissance permettant de rembourser la dette, et enfin, la popularité qui existe dans tous les pays, mais qui est particulièrement exacerbée en France, de la pensée à somme nulle. Cette pensée présente les choix politiques comme la distribution d'un gâteau à taille fixe et ainsi occulte la recherche des leviers de création de richesses et pousse au court-termisme. Je dis ça devant Philippe Aguillon et la croissance et ses croissances endogènes. Mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, si vous regardez les budgets, les discussions des deux dernières années sur les budgets, c'est en gros comment on va se partager le gâteau. Il n'y a jamais de discours sur l'investissement dans la technologie, l'investissement en éducation. Enfin, on en parle, mais on ne fait rien, etc., etc. On vit dans le court terme totalement. On parle de taxes, d'ailleurs très insuffisantes par rapport aux enjeux. On n'arrivera pas à combler notre déficit par des taxes. On peut faire différentes choses, mais en tout cas, on ne parle pas d'investissement dans l'avenir. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Alors, chaque pays doit être libre, bien sûr, de faire ses choix de société. Certains choix français, comme celui d'un temps de travail réduit ou du taux d'emploi, sont respectables. C'est un choix de société. Moins respectable est le déni des implications de ces choix. Par exemple, les conséquences en termes d'indépendance et de pouvoir d'achat de la chute relative de la productivité horaire, j'insiste, horaire, française depuis une trentaine d'années. Les conséquences de notre sous-investissement en sciences, en éducation, en innovation, ou encore notre égoïsme face au transfert intergénérationnel au détriment des générations futures. Nous faisons des choix, mais nous ne les assumons pas. Plus généralement, une posture de consolation face à l'état du monde ne répond pas à l'exigence de la réalité européenne. Les dépendances européennes ne sont pas seulement importées, elles le sont, mais elles sont aussi en partie fabriquées chez nous. Volontairement, comme le refus de se confronter aux bombes à retardement, ces négligences en matière d'éducation, de recherche, de dette ou de climat, qui sont indolores, voire invisibles à court terme, mais finissent par générer des problèmes considérables à long terme. Ou de manière inconsciente peut-être, comme dans cette fable de la grenouille qui s'habitue à l'eau qui chauffe et finit par mourir. Dès 1945, Albert Hirschman, lui encore, soulignait déjà que la dépense est fréquemment auto-imposée. Elle résulte de choix répétés, d'arbitrages différés, de renoncements cumulés. Nous sommes ainsi enfermés dans un cercle vicieux bien connu. Retard technologique, d'où dépendance, d'où concession, d'où retard accru. Pour en sortir, un changement de regard est indispensable. L'Europe doit cesser de se penser comme un simple spectateur de sa propre sclérose. Elle est un acteur. Et comme tout acteur, elle porte une part de responsabilité, donc une capacité d'action. Cela implique d'accepter des décisions à la hauteur de l'urgence. Aujourd'hui, alors que le Titanic prend l'eau, nous débattons encore de la disposition des transats. Il faut inverser les priorités. Et pour cela, il faut réformer l'Europe. Sans l'Europe, la France sera sans aucune défense face à la politique géopolitique transactionnelle. Malheureusement, nous souffrons à la fois de trop d'Europe et surtout de trop peu d'Europe. C'est le paradoxe d'un mélange d'inflation normative et d'une incapacité à prendre des décisions communes structurantes. D'une part, l'Europe est souvent encline à préférer l'approche bureaucratique à l'incitation et elle s'occupe de problèmes sans lien évident avec l'intégration européenne. D'autre part, l'Europe pâtit d'un déficit de centralisation flagrant. La fragmentation en 27 systèmes juridiques et réglementaires, les barrières non tarifaires démesurées au sein de l'Europe, je vous rappelle l'étude du FMI à ce sujet, c'est effrayant, effectivement, il n'y a plus de barrières tarifaires, mais les barrières non tarifaires sont absolument gigantesques. Quand on parle de marché unique, il n'existe absolument pas. On affaiblit l'innovation, on facilite les stratégies de division des puissances extérieures, et ce n'est pas un hasard si les États-Unis, la Russie ou la Chine parlent aux États membres et pas à l'Europe. Ils ne veulent absolument pas parler à l'Europe. Ils veulent diviser pour mieux conquérir. Réformer l'Europe suppose de résister au chantage tout en préservant ce qui sert le bien commun. Un droit de la concurrence efficace, une union bancaire, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, un euro numérique, une meilleure intégration de la défense, des achats et politiques communes, comme dans le cas des vaccins en 2020 ou l'achat du gaz en 2022, et une politique ambitieuse d'innovation conçue sur le modèle du Conseil européen de la recherche. Elle peut aussi enfin créer un marché unique, peut-être avec l'aide d'une cour de justice spécialisée adjudiquant promptement les disputes commerciales entre pays ou du 28e régime d'incorporation des entreprises, serpent de mer repris dans tous les rapports. Elle peut mieux encadrer la transposition en droit national des directives européennes, aujourd'hui devenues le vecteur de barrières commerciales, comme je le disais, totalement démesurées au sein de l'Europe. La gouvernance européenne doit évoluer vers davantage de décisions à la majorité qualifiée, un véritable patriotisme européen et une moindre politisation des choix techniques. Plus d'Europe ne doit pas signifier plus de règles, mais des règles plus courageuses et à fort impact. Plus d'Europe nécessite une capacité accrue à décider, à investir et à agir collectivement dans la durée. Pour renforcer massivement nos capacités technologiques, non seulement par l'investissement à la recherche, mais aussi par une gouvernance plus stratégique de l'innovation. Pour consolider nos capacités financières, croissance de la productivité horaire, contrôle de la dette, réforme de l'État, et pour réduire nos vulnérabilités par la diversification des approvisionnements, la constitution de coalitions crédibles et une Europe plus vertueuse et proactive dans ses objectifs, mais moins bureaucratique dans son approche. À cela s'ajoute une dimension trop souvent sous-estimée, la bataille des idées et de la formation. La recherche et l'enseignement en économie et sciences sociales font partie intégrante de la solution. Les sciences sociales peuvent alerter lucidement sur la situation en expliquant les causes profondes plutôt que des incantations, proposer des solutions réalistes plutôt que des incantations et former des élites capables de penser la complexité sans s'y résigner. L'avenir n'est pas de préserver un modèle figé, mais de lui redonner un avenir. L'enjeu n'est pas de préserver un modèle figé, mais de lui redonner un avenir. L'Europe n'est pas condamnée au déclin, mais elle est condamnée à choisir, soit rester dans la consolation morale, soit retrouver l'ambition politique. L'histoire, en fait, et je terminerai par ceci, montre que les périodes de dépendance ne prennent fin que lorsque les sociétés décident collectivement de redevenir maîtresse de leur destin. Et c'est à ce prix que l'Europe pourra rester un acteur crédible et souverain dans l'économie mondiale de demain. Je vous remercie.
Merci, cher Jean, pour ce diagnostic lucide et ces propositions courageuses face aux défis auxquels l'Europe est aujourd'hui confrontée.